La parole du jour avec Sœur Marina de la communauté du Chemin Neuf.
Chères auditrices, chers auditeurs, un grand bonjour à chacun d'entre vous. Ce matin, on va entrer dans la lecture du prologue du Cantique des Cantiques. Ce prologue est constitué par 7 petits tableaux. De Cantique 1, verset 2 à Cantique 2, verset 7. 7 petits tableaux, 7 petites vignettes. C'est comme l'ouverture d'une symphonie. On a les thèmes qui vont ensuite se développer dans l'ensemble du poème. Nous allons lire le premier et le deuxième tableau. Et je vous propose, tout au long de ces émissions, une traduction qui vient de la Bible Bayard, parue en 2004, fruit d'un travail passionnant et souvent réussi entre des exégètes et des écrivains ou des poètes. Nous lisons, premier petit tableau, versets 2 à 4. Elle. Un baiser des baisers de sa bouche. C'est bon tes tendresses, meilleures que le vin. C'est bon tes parfums, je les respire. Une onction se répand, ton nom. Oui, les jeunes filles t'aiment. Attire-moi, courons à toi. Le roi me fait entrer dans sa chambre. Réjouissons-nous, joie par toi. La mémoire de tes tendresses est plus savoureuse que le vin, comme on a raison de t'aimer. Dans ce premier petit tableau, il semble que nous sommes dans un palais ou autour d'un palais et qu'il est question de princes et de princesses. Il est question d'un roi, de la chambre d'un roi, et il est question de tout cela dans la bouche d'une femme qui tantôt parle à ce roi. Un baiser, c'est bon. Pardon. Il est question d'un roi et de la chambre du roi. Et il est question de tout cela dans la bouche d'une femme qui tantôt lui parle. C'est bon tes tendresses, c'est bon tes parfums. Tantôt parle de lui. Un baiser des baisers de sa bouche. Le roi me fait entrer dans sa chambre. Cette alternance entre le discours direct et le discours indirect permet de percevoir le ton de l'ensemble du cantique. En fait, une femme médite en son cœur sur son grand amour. Elle convoque sur la scène intérieure de son cœur souvenirs, pensées, désirs, gestes, paroles échangées. On voit aussi le vocabulaire d'une relation charnelle qui se spiritualise. La bien-aimée évoque en effet baiser, caresse, puis le parfum de son aimé, jusqu'au parfum même de son nom. Et en hébreu, il y a tout un jeu d'assonance entre huile et nom. L'huile en hébreu, ça se dit shemen. Le nom, ça se dit shem. Shemen, shem. Autre chose étonnante, à la fin du verset 3, le sujet amoureux passe du singulier au pluriel. Oui, les jeunes filles t'aiment. Un exégète invite à repérer ici non une allusion au harem de Salomon, mais un procédé typique de la poésie amoureuse égyptienne. Dans cette poésie, l'amant ou l'amante passe régulièrement du « je » au « nous ». En fait, cette figure de style renvoie à une expérience universelle. L'amant ou l'amante part l'être aimé de toutes sortes de qualités et a du mal à concevoir que les autres ne partagent pas le même regard. Dans la seconde partie de ce premier tableau, il y a une invitation aux jeunes filles et aux lecteurs, à entrer plus avant dans cette intimité amoureuse et à la célébrer. Deux expressions sont à noter. Jubiler et se réjouir. Ça, c'est au verset 1-4. Réjouissons-nous, joie par toi, jubilons. Et on peut remarquer que ces deux verbes sont souvent associés dans la Bible pour dire l'accueil du salut, le salut de Dieu. On pourrait lire en Isaïe chapitre 9, verset 2, ou en Isaïe chapitre 66, verset 10. Et du coup, ces deux verbes, réjouissons-nous, jubilons, sont parés d'une couleur quasi liturgique. Autre expression, la mémoire de tes tendresses qui vient juste après ces deux verbes. Justement, comme ça vient juste après ces deux verbes, il conviendrait de traduire plutôt par le mémorial de tes tendresses. Ainsi, une atmosphère liturgique affleure dans le chant passionné de la bien-aimée. Ce qui donne après coup au lecteur de voir autrement l'expression de Cantique 1-3 « Ton nom est un parfum répandu ». Le nom de l'aimé, tel un sacramental, aurait comme une valeur d'onction sur celle qui le prononce. En conclusion, ces premiers versets font apparaître la figure royale du bien-aimé dans le regard de son aimé. Elle exprime son désir de lui dans des termes qui nimbent discrètement la relation d'un halo liturgique. Ceci nous permet de comprendre comment le cantique, dès ses premiers mots, a pu susciter une interprétation allégorique, c'est-à-dire, oui, ça parle d'un homme et d'une femme, mais en fait, ça parle surtout et profondément de la relation entre Dieu et son peuple ou de la relation entre le Christ et l'âme. Deuxième petit tableau, versets 5 et 6. Je lis, elle, « Je suis sombre, splendide, fille de Jérusalem, comme tante de Kédar, tenture de Salomon. Ne me voyez pas si sombre. Le soleil m'a regardée. Les fils de ma mère ont brûlé de colère. Ils m'ont mise à garder les vignes. La vigne que je suis, je ne l'ai pas gardée. » Changement de décor et de personnage. Du palais de Jérusalem, on passe brusquement à la lisière du désert, comme dans les rêves qui sautent du coq à l'âne, mais en fait tournent autour du même objet. C'est toujours la bien-aimée qui parle, sans réponse du bien-aimé. L'interlocuteur ici, ce sont les filles de Jérusalem, dont Cantique 1-3 disait « Oui, les jeunes filles t'aiment ». Ce deuxième tableau opère comme un arrêt dans l'élan du premier tableau. La bien-aimée se met à se justifier devant le mépris des citadines pour son teint hâlé. Problématique dont on voit qu'elle n'est pas d'aujourd'hui. Les blanches parisiennes et les paysannes au teint bruni. Finalement, les noirs et les blancs aussi. Nous apprenons ainsi que, même si elle fait partie des jeunes filles du palais, la bien-aimée ne leur ressemble pas et suscite leur condescendance. Mais la bien-aimée, jouant avec le double sens du verbe « regarder », qui veut dire « regarder » mais aussi « brûler », leur suggère avec humour que si le soleil l'a brûlée, c'est justement parce que elle seule est l'élue du regard céleste. Le soleil m'a regardée. Oui, de quel soleil parle-t-elle sinon du soleil qu'est le roi des versets 4 et 5. De tout temps, en effet, les rois ont été comparés au soleil, voire Louis XIV, le roi soleil. La suite du verset 6 donne une explication factuelle au teint de la bien-aimée. Ses frères, les fils de sa mère, brûlant de colère contre elle, l'ont mise à garder les vignes. Elle est donc l'objet d'un autre mépris. Pas seulement le mépris des filles de Jérusalem, les filles de la ville, mais aussi le mépris de sa famille. Pourquoi ? Depuis les premiers versets se déploient des images liées au vin et à la vigne, symbole de l'amour et de l'être aimé dans les cultures antiques. Une opposition se dessine entre le vin du bien-aimé, en libre accès, et la vigne du mariage, chasse gardée du clan et des lois patriarcales. La bien-aimée a été vouée par ses frères à garder les lois du clan. mais elle a décidé de ne pas garder sa propre vigne, qui pourrait symboliser son corps et son cœur. Elle a décidé de ne pas les garder pour un mariage arrangé. Elle a décidé de se laisser guider par l'amour lui-même. En effet, elle dit « La vigne que je suis, je ne l'ai pas gardée. » On va conclure en essayant de dégager quelques sens spirituels de ces deux petits tableaux du prologue. On voit affleurer dans le face-à-face de la bien-aimée avec les filles de Jérusalem un thème central du cantique. Ce thème central, c'est l'amour vrai venu du cœur en opposition à l'amour fabriqué, mariage arrangé, gouverné par l'intérêt social. La bien-aimée apparaît comme une femme devant ruser et se cacher de sa famille pour retrouver celui qu'elle aime. Qu'en est-il entre Dieu et l'âme? Eh bien, comme il est dit, suggéré dans ces quelques versets, Dieu a l'initiative de la rencontre. Il suscite un amour sensible au cœur, non fabriqué, non d'abord social. Et c'est un amour qui met à part. Et pour la relation de l'homme et de la femme, ces deux petits tableaux suggèrent aussi que l'amour entre l'homme et la femme est un amour personnalisant, subjectivant. En effet, devant les filles de Jérusalem, la bien-aimée se demande qui elle est. Elle se définit elle-même comme noire et pourtant belle.